Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Honneur à toi d'éternité en éternité, majesté, au sauveur, au Seigneur de gloire, le créateur de toutes choses, celui qui rend capable de faire ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne sait pas faire, celui qui rend le faible fort, celui qui humilie l'orgueilleux, celui qui donne espoir aux désespérés, celui qui donne la main aux faibles, afin qu'ils puissent marcher et arriver et vaincre dans le combat. Celui qui a dit « Je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu es avec nous et tu es dans ce lieu. Tu es ici là où deux ou trois s'assemblent en ton nom. Tu es ici pour nous parler encore, hey, Seigneur, pour nous exhorter, pour nous rappeler les vérités de ta parole et les conditions que tu mets devant nous afin d'entrer dans le royaume des cieux. Et même, Seigneur, lorsqu'il te parle de conditions, tu nous aides toi-même à y obéir. Seigneur Jésus, notre force est en toi, notre espoir est en toi, notre vie est en toi. Nous n'avons rien d'autre que toi. Nous n'avons rien d'autre que toi sur la terre et dans les cieux. Les choses de la terre ne sont que poussière et passent. Mais toi, tu es éternel. Et tu nous rends participants de ton éternité. Gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Ô Dieu de grâce. Encore ce matin, dans ta miséricorde, tu veux nous parler, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Tes serviteurs écoutent. Et que ce soit ta voix, non pas celle de l'homme. Mais toi, Seigneur, et tes paroles de vie qui pénètrent dans nos cœurs, au nom de Jésus. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, et tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne prosterneras pas devant elles. Et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Et je suis un Dieu jaloux. Et je punis les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est respecter sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir. Déjà plusieurs dimanches, nous sommes sur ce sujet. Dimanche dernier, je n'ai même pas terminé le message qui était sur mon cœur, ce message qui bouillait dans mon cœur et dans mon âme. J'aimerais essayer d'achever aujourd'hui. L'idolâtrie ne procure pas de bonheur. L'idolâtrie amène la tristesse et le malheur. L'idolâtrie est incapable de satisfaire les besoins de l'âme. Elle apporte un contentement passager. Mais très éphémère. Celui qui aime l'argent outre mesure prendra l'argent qu'il gère pour certaines choses à faire pour le bien public. Il prendra une bonne partie pour lui-même. Il va prendre peut-être plus de la moitié et il restera peut-être juste un dixième dans la caisse. Et il aura mille explications. Il trouvera, dans un premier temps, une certaine satisfaction parce qu'il a le pouvoir d'acheter avec cela une belle voiture et de se construire une belle maison et de se mettre un bon compte en banque de côté. Mais il est un idolâtre et son péché ne peut rester impuni. Son péché ne peut rester impuni. Le bien ne sera jamais mal et le mal ne sera jamais bien. Trop d'hommes et de femmes cherchent à expliquer. Oui, mais je vais vous expliquer. Il n'y a pas besoin d'explication. Cette somme d'argent avait été remise pour un tel but. Eh bien, cet argent doit être dépensé pour ce but. Et si c'est détourné, eh bien, sache que tu pèches. Et il ne s'agit pas de la décision d'un homme, il s'agit de la décision de tous s'il y a changement de destination. Changement de destination, non pas dans la poche de plusieurs, mais dans le but pour lequel ça a été donné. J'ose pas parler en public d'histoires que j'ai entendues. Elles sont trop récentes. Mais nous sommes dans la magouille et dans le pot-au-pote. Et nous pleurons à Dieu, pourquoi la guerre, et pourquoi la maladie, et pourquoi le désespoir, et pourquoi? Es-tu si stupide? Si stupide? Il y a une loi immuable, ce que tu sèmes, tu le récolteras. Je sais que je dis des choses que j'ai répétées tant de fois, et il me semble que certaines fois, je parle pour rien, je perds mon temps. En tout cas, ceci me fait comprendre que ce n'est pas mes discours qui peuvent faire quelque chose. C'est l'Esprit de Dieu qui brise les cœurs, qui convainc les gens de péché et des jugements. Mais Dieu a dit, tu dois parler. Il avait dit à Jérémie, tu dois parler. Personne ne l'écoutait. On le persécutait, Jérémie. On l'a jeté même en prison, Jérémie. On l'a jeté dans un puits plein d'immondices, Jérémie. Il a même craint pour sa vie, car les religieux eux-mêmes réclamaient qu'il soit mis à mort. Et les non-religions disent non, ne faites pas cela. Vous voyez? On pourrait dire que Jérémie a failli, parce qu'il n'y en a pas un qui s'est détourné de son péché, alors que Dieu a dit, je ne punirai pas la nation si vous revenez à moi et si vous écoutez ma parole, je ne punirai pas la nation. Les armées étrangères ne vont pas venir dans votre pays et Jérusalem ne sera pas détruit et vous ne serez pas pris en captivité si vous vous repentez, si vous laissez de côté votre idolâtrie. Il n'y en a pas un qui a écouté, vous m'entendez? On pourrait dire que Jérémie était un prédicateur qui n'avait pas de puissance, pas d'autorité, pas de pouvoir. Non. C'est seulement le cœur des hommes. Le cœur des hommes. Peut-être le cœur des Congolais. Jérémie s'est lamenté et a pleuré combien de fois? Car il savait que la parole de Dieu ne peut être abrogée. Et qu'il est un Dieu d'amour, et qu'il y avait une condition, si, vous vous repentez, vous revenez en moi, vous détruisez les idoles, si vous détruisez les idoles et les faux dieux, si vous commencez à respecter l'étranger et la veuve qui sont dans vos rangs, si vous rendez le droit et la justice à ceux qui ont droit à la justice, et vous ne laissez pas acheter par de l'argent, simplement pour donner droit aux coupables, si vous rétablissez les choses telles que je les veux, vous n'irez pas en captivité. Jérusalem ne sera pas détruite. Ils n'ont pas cru. Ils ont refusé de croire. Ils ont persécuté. Ils ont cru à qui? Aux faux prophètes. Oh, il n'y aura pas de mal. Oh, l'Éternel aime Jérusalem. Oh, l'Éternel aime le pays. Oh, l'Éternel éloignera de vous les rois Nebuchadnezzar et ses armées. Oh, l'Éternel, ils ont cru au mensonge. Ils ont cru à ce qui leur plaisait. Mais aujourd'hui, on va entendre que ce qui nous plaît à nous et à la chair et qui nous dit, ça va bien après tout. Ça va. Dieu aime le Congo. Tout va bien aller. Vous allez voir, Dieu aime le Congo. Mais Dieu aime le Congo. Bien sûr qu'il aime. Tout autant qu'il aime le Gabon. Mais Dieu est le péché, voilà. Qu'il soit de France, d'Allemagne, d'Amérique, du Gabon, du Congo, de l'Ubangi, de où que ce soit. Il ne peut pas voir le péché et il punira le péché. Il envoie ses prophètes pour prêcher. Et ils vont se trouver en opposition avec les faux prophètes. Peu importe. Il y en a qui écouteront, il y en a qui n'écouteront pas. L'idolâtrie amène la souffrance. L'idolâtrie provoque la souffrance. La désobéissance ne donne jamais le bonheur, de quelque façon que ce soit. Vous désobéissez, c'est vous n'aurez pas le bonheur. Vous violez les commandements de Dieu, vous n'aurez pas le bonheur. L'idolâtre est un rebelle. L'idolâtre est un violateur des commandements de Dieu et de la volonté de Dieu. L'idolâtre, il fait la guerre à Dieu. Oui, ça c'est une grande responsabilité. Il fait la guerre à Dieu. Il ne peut recevoir aucune bénédiction, l'idolâtre. Il est maudit par ses propres œuvres. C'est quelque chose de grave. L'idolâtrie est une cause majeure de souffrance. Et nous, dans notre pays, nous souffrons et c'est une cause majeure de notre idolâtrie. La souffrance dans le monde est due à l'injustice humaine. Cette douleur, cette souffrance est ramenée à un seul point. L'idolâtrie. La cause de la souffrance des hommes est l'idolâtrie. Nous avons lu là, dimanche dernier, tout ce chapitre très descriptif de Romains 1, 18 à 32. Nous n'en lirons que quelques parties aujourd'hui. C'est une longue lecture, mais une lecture qui nous montre l'état dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'ils sont devenus idolâtres, parce qu'ils ont adoré la créature plus que Dieu. On peut très bien adorer un bout de bois, un bout de pierre, mais on peut adorer un homme ou une femme. Je me souviens, pendant combien d'années nous avons adoré un homme dans notre société. Nous avons adoré un homme. Des milliers et des milliers d'hommes et de femmes ont chanté pendant des jours et des jours la gloire de cet homme, comme s'il était un Dieu. On le voyait venir sur les écrans de télévision comme venir sur un nuage. Vous vous souvenez? Et tout le monde devait avoir le signe, l'insigne. L'insigne là, au revers. Quelqu'un ne l'avait pas, c'était grave. Si on se présentait dans un lieu public, dans un lieu d'État, un bureau, il fallait. Je me souviens d'avoir été avec des frères qui ne l'avaient pas. Rapidement, quelqu'un cherchait dans la poche, on demandait à gauche, à droite, on se prêtait pour avoir le signe de l'idole. Je me souviens des pasteurs. Des pasteurs qui m'ont bouleversé. Mais je ne disais rien parce que je ne pouvais rien dire. Étranger. Voilà ma condition depuis que je suis né. Étranger. Et on me l'a dit bien des fois devant la figure. C'est pas ton affaire, tu es un étranger. Et je me souviens alors que je combattais pour des choses qui était anormal dans l'Église avant que la borne existe, et que je discutais avec certains de ses responsables. Ils me disaient, ça ne vous regarde pas, vous êtes un étranger. Alors je pense que nous devrions relire dans la Bible ce que Dieu dit des étrangers. Je me souviens alors qu'un jour, j'étais devant quelque part dans un poste de police, d'immigration et autres, il y a bien des années de cela, et que je disais quand même, avec tant d'années que je suis ici, je devrais avoir des avantages, quand même, hein, et avoir même une carte d'identité du Congo, pourquoi pas? Les gars m'ont regardé en rigolant. Regarde-toi dans la glace, tu verras si tu es un Congolais. Gloire à Dieu, toute ma vie j'étais un étranger et je reste étranger car mon pays n'est pas ici-bas sur la terre. J'ai mon pays là-haut. J'ai mon pays là-haut. Et même si je suis un étranger sur la terre, je m'en vais parler et je m'en vais parler. Parce que je vais vous dire une chose, si nous sommes dans le malheur, c'est parce que nous avons adoré des idoles faites de chair et d'os. Nous devons respecter l'autorité, mais nous ne devons pas adorer l'autorité. Nous devons prier pour l'autorité afin qu'elle fasse son travail comme ayant à rencontre à Dieu. Nous devons prier pour l'autorité car l'autorité a été établie par Dieu pour l'harmonie, pour la concorde, pour le respect des lois et pour diriger. Et nous devons prier pour eux. Mais l'adoration est due à Dieu seul. Nous avons adoré multiples dieux. Et nous nous trouvons dans le malheur et nous ne savons pas comment en sortir. L'idolâtrie amène une terrible souffrance et beaucoup d'injustice. Je me souviens de cette espèce de société secrète qu'on avait fait à cette époque-là. J'ai retrouvé l'autre jour un document de cette Prima Curia. Voilà. C'était secret, secret, secret. Et puis, j'ai retrouvé dans mes papiers, c'était un journal qui avait publié beaucoup des secrets de cette Prima Curia. Occulte ! Voilà ce que nous avons fait, voilà ! Ça va être secret, il fallait des initiés, il fallait que le grand maître, patati patata, passez-moi ça, je ne veux rien de ça ! Oh, j'aurais pas pu prêcher comme ça à ce moment-là. Kangaye, Makala. Mais les choses qui se sont passées, doivent nous servir de leçon, mes frères, doivent nous servir de leçon. Il n'y en a qu'un seul qui a besoin d'être adoré. Un seul et unique. Lui seul, la gloire, la majesté, lui seul, le Dieu puissant. Ne recommençons pas, allons-nous apprendre avec les leçons du passé. Qu'avons-nous de plus, rien de plus, que plus de pauvreté, plus de malheur, plus de larmes, moins d'argent dans la poche. Il y a des gens qui pensaient qu'en faisant tout ça et en adorant l'idole, on va devenir riche. Et résultat, nous devenons de plus en plus esclaves. Tout le monde est sous-payé, sous-payé, sous-payé. J'ai mal au cœur des ingénieurs agronomes, des médecins qui gagnent $80 par mois, l'équivalent d'eux. Il y en a d'autres qui ne sont même pas payés. Il y en a d'autres qui ne sont même pas payés, qui travaillent pendant 2 mois, 3 mois, retard de paiement, pour finir, il y a tellement de retard de paiement que le retard ne vient jamais, on recommence à payer en oubliant tout le passé. C'est du vol! Mais pourquoi ça? Oh, ne pointons pas le doigt aux autres, au chef là-bas, au chef ici, pointons le doigt ici sur nous, humilions-nous devant Dieu, nous avons été des idolâtres, nous avons adoré les idoles, et maintenant nous recevons le traitement de celui que nous avons adoré, l'idole et les idoles. Il fut un temps, c'était très mal vu de dire certaines choses. Et je me souviens, ça je dois vous le dire, que 2-3 fois j'ai fait des déclarations publiques, je les ai faites en tremblant. Mais je les ai faites parce que je devais le faire. Et le Seigneur m'a gardé jusqu'à ce jour. Il y a certaines personnes qui sont venues me dire une fois, c'est étonnant que vous n'ayez jamais été arrêté. Il ne m'arrivera rien tant que je suis dans la main du Dieu vivant. Et Jésus a dit lui-même, je suis avec vous. Je suis avec vous. Nous ne voulons pas bavarder n'importe comment pour provoquer les gens inutilement. Mais nous voulons dire la vérité. Et c'est la vérité qui nous affranchira. Nous devons annoncer la vérité. Non à l'idolâtrie. L'idolâtrie avec son esprit satanique affecte le domaine des relations humaines. Affecte le social. L'idolâtrie affecte même l'écologie. La nature qui nous entoure. Donc, quand on lit dans la parole de Dieu, Dieu a fait de l'homme le gardien de la nature. C'est pas vrai? Mais qu'est-ce que nous gardons aujourd'hui? On détruit. On détruit le monde animal. On détruit les forêts. Pourquoi? Par cupidité! On voit pour moi aujourd'hui, on s'en fiche demain. Aujourd'hui, le grand drame est qu'on est en train de détruire les grandes forêts équatoriales. Pour l'argent. Faire du bois, vendre ça. Et nous sommes en train de nous étouffer. Vous savez que ces grandes forêts équatoriales sont voulues de Dieu? Et que par la photosynthèse, le soleil, tout ce petit laboratoire qu'il y a dans les feuilles, oui, dans une feuille pamba, il y a tout un laboratoire, qui transforme les gaz nocifs, les gaz carboniques, qui les transforme, qui les absorbe et qui restitue de l'oxygène. Vous coupez un arbre, vous coupez un poumon. Et moins il y aura d'arbres, plus l'air sera pollué. Et nous nous auto-empoisonnons. Et en plus de cela, nous tuons le monde animal, les merveilles de la nature. Nous les tuons par cupidité. Pour l'argent, nous ne pensons même pas à nos descendants. À court terme, on pourrait faire une longue liste là-dessus, mes frères. Tout ça, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie affecte le domaine des relations humaines, affecte le domaine social, affecte l'écologie de la planète. Ils ont adoré et servi la créature au lieu de servir le Créateur. Romains 1, 21 à 32. À cause de la cupidité, qui est une idolâtrie, l'argent donné pour les projets d'intérêt commun est détourné. On a commencé et on a fait plaisir à tout le monde, on s'est dit voilà quelque chose qui se fait de positif. Et bien avant que ce soit fini, on dit qu'il n'y a plus d'argent. L'argent est parti, la plus grande partie est partie dans quelques poches pour soi-même, pour l'idole qui s'appelle cupidité. Et le travail n'a jamais été fini. Ou alors, on prétend que le prix du travail, trois ou quatre fois plus que l'argent qu'on avait reçu. Résultat, les autres souffrent. La route ne sera jamais terminée, ce sera impraticable, rien ne sera fait pour arrêter l'érosion, les difficultés, le transport seront énormes. Et les problèmes dans l'économie, et les problèmes dans la société et dans l'entourage, à cause de l'idole qui s'appelle cupidité, de l'idole qui s'appelle argent, de l'idole qui s'appelle convoitise, tous souffrent. La vie familiale et la vie sociale se trouvent affectées. Et rien ne devient facile. Tout devient impossible. La chose la plus simple devient compliquée. On n'est pas payé durant des mois. On est sous-payé. Chacun cherche à faire. quelque chose ou à fuir d'une façon ou d'une autre la situation. Qui sait, peut-être de sortir du pays avec des faux visas et des faux papiers, espérant trouver quelque chose ailleurs. Un déséquilibre complet. Pourquoi? À cause de l'idole. L'idole détruit. Plus de nourriture pour les enfants à la maison. On ne peut terminer son mois. On détruit l'environnement parce qu'il faut bien vivre. On saccage la nature et le monde animal. Les villes deviennent des tas de poubelles au milieu desquelles les gens s'assoient pour vendre leur pain et leur manioc. Des centres d'infection, les villes. Infection morale, infection physique, infection spirituelle. À cause de l'idolâtrie, souffrance. On n'est plus organisé. On n'a plus de camions pour transporter les immondices. On n'a plus de transport public pour que les gens puissent se déplacer. On est harcelé par des gens qui demandent partout de l'aide, de l'argent, ici et là. Est-ce possible de continuer à vivre dans une telle société? Il peut y avoir un changement. Il peut retourner à Dieu, ôter les idoles. Déchéance morale, déchéance spirituelle, déchéance physique. Les tribunaux, les juges, les avocats, remplis de convoitises, se laissent influencer dans leur jugement et leur plaidoirie par la convoitise de l'argent. L'innocent est coupable. Le coupable est justifié parce qu'il paye beaucoup. L'idolâtrie et la société est malade. Devrais-je dire cela, oui ou non? La parole de Dieu nous éclaire. Paul nous dit que la souffrance dans le monde n'est pas à cause de la colère de Dieu. Non. Ce n'est pas à cause de la colère de Dieu contre le Congo que le Congo est en guerre et que rien ne marche. Non. Ce n'est pas à cause de la colère de Dieu. Mais c'est à cause de l'injustice humaine. C'est à cause de l'idolâtrie dans laquelle nous sommes. Quand l'idéologie, quand l'ambition personnelle, quand la convoitise, quand les passions, les désirs de la chair, quand l'orgueil devient des facteurs qui contrôlent la vie, plutôt que Dieu, il y a idolâtrie. Et le résultat, c'est la souffrance. Contrôlé par la cupidité, contrôlé par l'orgueil, contrôlé par des idéologies contradictoires de ceci, de cela, contrôlé par tout cela. Nous sommes des idolâtres de ce que nous croyons, au lieu de croire en Dieu et de recevoir de lui le conseil. Il y a idolâtrie et le résultat, c'est la souffrance. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5, il est dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté. » L'idolâtrie ouvre la porte à nos instincts les plus bas. Lisez quand Aaron a fait son veau d'or duquel nous avons déjà parlé, à la demande du peuple. Lisez. Le peuple tomba dans la licence, il tomba dans la débauche, il tomba dans la gloutonnerie, dans l'ivrognerie, dans l'orgie. Regardez Romains 1:26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes.
car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. De même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Lorsqu'il y a l'idole, il y a démoralisation de l'individu. Voilà pourquoi aujourd'hui les déviations morales les plus abjectes ont-elles place dans notre société? À cause de l'idolâtrie. Regardez aujourd'hui dans les peuples qu'on dit être chrétiens, qui ont eu l'Évangile, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. L'aberration dans laquelle ils tombent, dans l'homosexualité, femme avec femme, homme avec homme. Vous allez voir toujours, dans toutes les sociétés qui deviennent idolâtres, qui se tournent vers l'occultisme, vous aurez toujours des déviations sexuelles qui amèneront la destruction de cette nation. L'homosexualité est en train d'envahir le monde. Pourquoi? Parce que l'occultisme envahit le monde. Vous savez très bien, vous-même, que dans nos familles païennes qui ne connaissent pas Dieu, il y a toutes sortes d'anomalies sur ce plan-là. Un homme a combien de femmes? Dites-moi un peu. N'est-ce pas une déviation, cela? Et encore, il en veut plus. Ou alors, il hérite des femmes de son père qui meurent dans certaines tribus. N'est-ce pas cela? Il n'y a même pas là. Il n'y a même pas le respect de la femme. Elle doit être une machine à produire. On en marie autant qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on a des plantations et la main-d'œuvre est ainsi meilleur marché. Elles vont nettoyer la plantation. Et on les prend comme esclavage. Et on les change comme on veut. On en achète une, on en revend une. On leur envoie chez sa famille, on réclame l'argent de retour. C'est pourquoi la dot est immorale. Je me bagarre depuis que je suis ici contre la dot. Quand on demande comme dot pour une fille jusqu'à 3 000 $, c'est honteux. Je l'avais dit à ce jeune homme qui était venu me voir dans le bureau et je lui ai dit, mais tu n'achètes pas une Mercedes, tu n'as pas besoin de prendre cette femme. S'ils veulent autant d'argent, terminé. Une dot, si on veut suivre la tradition, symbolique de 5 $, terminé. Mais vous, parents, donnez-leur 3 000 $ pour pouvoir monter leur foyer. Je suis contre ce système. Je suis contre ce système d'exploitation. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. On ne gagne rien. Le jeune homme arrive à 32, 33, 34 ans. Il veut se marier, mais il ne peut pas. Et vous le mettez en danger. Et après, s'il couche avec une fille quelque part, tout le monde va lui tomber dessus, c'est pas vrai? Et l'Église va lui dire, c'est anormal, tu as péché, tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas marié. Mais la responsabilité, c'est le système. Un jeune homme, lorsqu'il a 25 ans, 30 ans, il a besoin de se marier. Il doit prier pour cela. Mais l'argent va mettre les bâtons dans les roues. L'argent, l'idole, loue-moi.
Ça, c'est une idole. Vous prenez tout le pauvre argent qu'il a, et quand il se marie, il n'a même pas une natte pour se coucher dessus. En tout cas, vous qui vous mariez aujourd'hui et qui êtes membre de l'Église, si pour vos enfants vous demandez des dots pareilles, vous aurez affaire à moi si je suis encore là. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ah, Dieu donc punit l'iniquité de l'occultisme et de l'idolâtrie des pères sur les fils jusqu'à la troisième et même la quatrième génération. Mais pasteur, tu as prêché un jour, né libre et délivré. Et ça, je le prêcherai encore car c'est vrai. Né libre et délivré. Mais pourquoi il y en a qui ne sont pas encore délivrés? Voilà la question. Lorsque nous prêchons l'Évangile dans l'Église, tel que nous le faisons ici, après la prédication, il y a des gens qui sont touchés, nous leur disons, qui veut accepter Jésus? Qui veut changer de vie? Il y en a qui se lèvent ici, là, là-haut, là, là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils se lèvent, ils manifestent leur désir. Mais quel est leur passé? Il y en a parmi eux qui sont nés dans une famille occulte. Quand ils étaient bébés, ils étaient sur le dos de maman. Quand maman allait voir le féticheur, pas vrai? Et maman faisait toutes ces histoires avec le féticheur, dans les sciences occultes. Bébé était là. Bébé était innocent. Mais bébé a subi une influence occulte. À cause de cela, en grandissant, bébé, qui est devenu grand, il y en a qui sont déjà adultes, qu'on appelle toujours bébé, mais enfin, il y en avait une qui était dans la voiture ce matin, par exemple. On lui demande son nom, elle dit bébé. Disons un grand bébé, un bébé de 20 ans, qui vient à Jésus-Christ. Elle entend la parole, cette personne entend la parole de l'Évangile, elle croit en Jésus. Alléluia. Et nous sommes tous heureux. Mais cette personne, elle a des problèmes. Elle a des problèmes qui viennent de l'occultisme de ses parents et peut-être de choses qu'elle a faites elle-même. Et voilà, elle est dans la maison maintenant. Et puis, elle continue à être oppressée. Je ne dis pas possédée. Il y a deux choses. Il y a l'oppression et il y a la possession. Les gens qui sont possédés, ils sont possédés par un esprit mauvais qui les fait faire ce que l'esprit veut qu'ils fassent. Mais il y a des gens qui sont oppressés. Et voilà qu'ils ont des manifestations bizarres. Dans leurs rêves pendant la nuit, des choses impures qui les assaillent, des choses mauvaises qui les assaillent. Ils pleurent, « Seigneur, délivre-moi !» Seigneur, délivre-moi. Et ces choses continuent et continuent encore. Ils viennent à l'église, ils sont fidèles, ils donnent leur dîme, ils donnent leurs offrandes, ils ont pris le baptême. Gloire à Dieu! Et le pasteur prêche, libre et délivré. Nous sommes nés libres et délivrés. Mais moi, je ne suis pas véritablement délivré. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je suis sauvé? J'ai cru en Jésus. Jésus, guéris-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, transforme-moi. Est-ce que c'est enseignements qu'on donne à l'extérieur sont vrais? Est-ce que peut-être je devrais aller là-bas pour être délivré? Non, mon frère, la délivrance est ici. Mais je vais te dire ce qui se passe. Tu es venu à Jésus-Christ. Tu t'es levé pour l'accepter. Tu as dit, je veux accepter Jésus. On a parlé quelque peu avec toi. On a eu un entretien avec toi. Tu as suivi les enseignements au baptême. Tu as été plongé dans l'eau. Mais jamais, jamais, tu as amené à la lumière ce que tu as fait autrefois. Jamais tu n'as confessé. Que dit la parole de Dieu? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Mais l'inverse est valable aussi. Si nous ne confessons pas nos péchés, il ne peut nous pardonner nos péchés. Il ne peut nous purifier de nos iniquités. La confession, mettre à la lumière ces choses que nous avons faites, on appelle ça la cure d'âme. Tout le monde n'a pas besoin d'une cure d'âme. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais trempé dans ces choses-là. Elles viennent à Jésus-Christ, ils sont pécheurs, c'est vrai. Ils étaient menteurs, ils étaient voleurs, ils étaient impurs dans différents domaines, c'est vrai. Et ils viennent à Jésus, pardonne mon impureté, Seigneur. Pardonne mes vols, pardonne ma mauvaise conduite. Merci Jésus. Et le Seigneur les lave, et les voilà qui avancent, et qui avancent. Mais l'autre, il y a toujours une ficelle sur laquelle Satan tire, et il tombe encore. Pourquoi? Quelque chose de caché n'a pas été mis à la lumière. Après la prédication de dimanche dernier, je crois bien, il y avait ici quelqu'un qui avait de telles manifestations nocturnes qui le tourmentait. Quand il a entendu ce qui a été prêché, une porte s'est ouverte dans son cœur. Il a parlé de cela à un frère, et depuis ce jour-là, il a été complètement délivré. Il n'a plus ces cauchemars qu'il avait toutes les nuits. Il n'a plus ces visions obscènes toutes les nuits. Il a été délivré. Pourquoi? La lumière, la lumière, la lumière. L'idolâtrie ouvre la porte à nos instincts les plus bas. C'est ce qui s'est passé là, avec le veau d'or de Aaron. Et Dieu se tourne contre ces gens-là. Et il les livre à leurs passions mauvaises, aux passions des esprits mauvais. Sachez bien que quand vous laissez aller dans un dérèglement honteux, vos passions naturelles que Dieu a mises dans vos cœurs et que vous les avilissez, ça, c'est un acte des esprits impurs qui, eux, sont souillés et qui veulent vous souiller. Quand les relations d'un homme avec son Dieu deviennent perverties, alors ses relations avec son entourage, avec la nature, avec les autres hommes deviennent chaotiques. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de bonheur là où l'égoïsme règne. La rupture de nos relations avec Dieu précipite la rupture de nos relations avec les autres. Car l'ordre social se trouve rompu. Et il en résulte une désintégration de l'éthique. Un déséquilibre du sens moral, du sens des valeurs. Et la souffrance en est le résultat. Le sida, c'est rien d'autre que ça. La violation des commandements de Dieu. La violation, il n'est pas nécessaire que tout le monde attrape le sida. On peut très bien vivre dans le monde sans attraper le sida. On peut très bien, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas quelque chose qu'on va attraper comme ça par hasard, comme la grippe par exemple, ou la malaria. Mais non, absolument pas. Malheureusement, il y a des accidents avec des piqûres infectées, avec du sang infecté dans les transfusions. Ça, c'est à part. Mais à part cela, on n'a pas besoin d'avoir le sida. Le sida est une conséquence de l'immoralité, mes frères. Une conséquence de l'idolâtrie. On idolâtrise le sexe, le plaisir de la chair, en dehors du mariage, ce que Dieu réprouve. C'est pourquoi Dieu à cause de leur idolâtrie, les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur chair, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est la Bible qui dit cela. C'est un chemin de souffrance que l'idolâtrie, un chemin de maladie, un chemin de larmes, un chemin de mort. Dès l'instant où l'homme cesse d'être le gardien de la création, rôle donné par Dieu depuis Éden, la création devient alors l'objet de la cupidité de l'homme qui l'a détruit. Conséquence, souffrance. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, délivre-moi. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ces inondations? Pourquoi? Mais ça s'explique. Tout ça s'explique à cause du dérèglement de l'homme qui n'a pas su gérer sa terre. L'idolâtrie amène le jugement. Exode 20. Car moi, verset 5, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui gardent mes commandements. Combien de fois nous avons vu des enfants entraînés dans l'occultisme par leurs parents qui ont des séquelles. Qui ont des séquelles. Ils peuvent être délivrés et ils seront délivrés, mais il faut un balayage. Il faut une confession systématique. Dieu punit l'iniquité qui est une déviation, l'iniquité qui est une hostilité envers Dieu, l'iniquité qui est une perversion inspirée par les ténèbres. C'est une violation de la loi de Dieu. C'est un choix délibéré dans la violation et dans le mal. Dieu dit, « Je suis un Dieu jaloux qui punit. » Pas de partage avec l'ennemi, voilà. Tu trembles dans l'idolâtrie, tu trafiques avec l'ennemi. Là, c'est le point le plus sensible de Dieu. Vous m'entendez? Vous avez un fétiche quelconque. Vous manipulez l'occultisme d'une façon quelconque. Vous avez Dieu contre vous. Vous m'entendez? Vous voulez faire du mal à Dieu? Voilà comment lui faire du mal. Plus à Dieu que vous reveniez, s'il vous plaît. C'est une violation. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je punis. Pas de partage avec l'ennemi. Si les pères sont iniques envers moi, en pratiquant l'idolâtrie, je punirai aussi les enfants. Je n'interviendrai pas en leur faveur. Et je laisserai les idoles qu'ils ont servi les opprimer. Derrière chaque idole, il y a un démon. Ils sont opprimés et dominés par ceux qu'ils ont servis. Mais, dit Dieu, je ferai miséricorde jusqu'en 1000 générations de ceux qui m'aiment. Dans bien des pays, ils ont eu dans le passé des pères qui ont aimé Dieu, qui ont respecté Dieu, qui ont souffert pour Dieu, qui sont morts pour Dieu, qui ont payé le prix de leur foi, persécutés par les idolâtres. Mais Dieu a dit, je bénirai jusqu'en 1000 générations. Moi-même, je suis le fruit. Depuis combien de générations, je n'ai pas compté, de ceux qui en France ont donné leur vie du temps des Huguenots pour la foi. Pour la foi. Et si certaines fois dans d'autres, dans certaines sociétés, malgré la dureté et la méchanceté des fils aujourd'hui, il y a quand même un sens moral, un sens de la vérité, un sens du respect du bien d'autrui, un sens du respect du bien public, et qu'on mène devant les tribunaux des ministres, des hommes chargés de gouverner d'une façon ou d'une autre, c'est en reste de ces principes que Dieu avait mis dans le cœur des pères et qui est resté dans le cœur des enfants jusqu'en 1000 générations. Si les enfants aujourd'hui tournent leur dos au Dieu de leur père, reste à eux de tomber sur le jugement de Dieu. Mais ils ont encore en eux des principes de base à cause de la fidélité des pères. Ce n'est pas à cause d'une supériorité de race, car nous sommes tous perdus sans Dieu. Mais c'est à cause d'une bénédiction de Dieu, parce que Dieu a béni les descendants de ceux qui l'ont cru. Et je bénis Dieu pour tous les enfants de ces jeunes gens, car pour eux, il y a des bénédictions en réserve. Alléluia! C'est eux, si Dieu tarde, c'est eux qui vont changer le pays. Ce ne sont pas les adorateurs d'idoles et ceux qui vont devant le féticheur pour être un homme fort, pour être un homme riche. Cela appelle la malédiction sur eux-mêmes et sur leur famille. Je suis un Dieu jaloux, dit-il. Mais je fais aussi miséricorde jusqu'en 1000 générations. Je punis jusqu'à 3 ou 4 générations, mais je fais grâce jusqu'en 1000 générations. Je bénis ceux qui m'aiment. Je bénis leurs enfants. Je bénis leurs descendants. Ils prospéreront. Ils auront de la santé. Ils auront de l'intelligence. Ils auront de la sagesse. Quand ils prieront, je répondrai. Je serai leur Dieu et ils seront mes fils. Car ils gardent mes commandements et cherchent à me plaire. Voilà ce que Dieu dit. Frères et sœurs, nous ne voulons pas être dominés et contrôlés par l'ennemi. Nous l'avons servi peut-être dans notre vie une fois, mais nous pouvons être délivrés. Nous pouvons être délivrés si nous confessons. Si nous confessons. Chrétiens, d'accord, mais pas de victoire. Encore oppressés par des visions nocturnes mauvaises, impurs, encore oppressés par des puissances mauvaises. Je me souviens, il y a bien des années dans ma vie, alors que je n'étais pas encore marié, 2 ou 3 fois la nuit, j'ai été attaqué. Et je voyais, mais c'était comme vrai, je pouvais le toucher. Je voyais se précipiter sur moi des chiens. Je vois encore leurs dents hurlant pour me dévorer. Et dans mon rêve, avec les yeux fermés, dans mon rêve, je criais au nom de Jésus, « Va-t'en !» « Sang de Christ, couvre-moi !» Et tout disparaissait. De telles choses peuvent arriver. Des visions impures, comme certains l'ont, qui les influencent. Frères et sœurs, nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin de nous laisser opprimer. Et si nous n'avons pas la victoire, demandons à Dieu qu'il nous révèle ce qui empêche. Pourquoi nous sommes oppressés? Je ne parle pas de possession, je parle d'oppression. En Jésus, il y a la victoire. Baissons la tête. Tu nous as parlé, Seigneur, et nous te disons merci. Au milieu de notre faiblesse, Seigneur mon Dieu, nous nous sommes adressés à toi, et dans ta miséricorde, tu nous as instruits. Aide-nous à comprendre, Seigneur. Nous voulons te suivre. Nous voulons être libres, Seigneur. Donne-nous la liberté de mettre en ordre dans nos vies ce qui n'a jamais été en ordre. De confesser ces choses qui nous font honte et que nous n'avons jamais dit à personne. Mais Seigneur, de les confesser devant un témoin, 2 témoins, et de prier ensemble. Alors nous connaîtrons la délivrance. Seigneur Jésus, il n'est pas nécessaire, tu le sais toi-même et tu nous le dis, que nous soyons oppressés par l'ennemi, car nous sommes nés libres et délivrés. Y en a-t-il ici qui ont besoin d'être délivrés d'oppression de l'ennemi qu'ils se lèvent là où ils sont? Qu'ils se lèvent là où ils sont. Vous avez besoin d'être délivrés de choses impures, mauvaises, de mauvais rêves, dans lesquels l'ennemi vous attaque sous différentes formes. Levez-vous, c'est pour vous. Vous n'avez pas besoin de rester sous cet esclavage. Vous n'avez pas besoin de rester sous cette domination. Seigneur mon Dieu, j'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs,
Vous savez vous-même ce qui vous tourmente. Vous savez vous-même ce qui vous gêne. C'est à vous, si ce sont des choses que vous n'avez jamais confessées, c'est des choses que vous devez confesser. Confesser à des gens responsables qui ne vont pas vous juger, mais qui vont prier avec vous pour vous aider à mettre tout en lumière afin que vous soyez libre. Il n'y a pas là d'un ministère spécial qui va mettre les mains sur vous en chassant ces puissances mauvaises. Il y aura simplement la lumière de Christ qui va pénétrer dans votre cœur en chassant par la confession ces choses qui vous tourmentent. Et vous serez libre, parce que Dieu veut que tu sois libre et heureux. Alléluia. Seigneur Jésus, tu connais le pourquoi ces gens se lèvent. Tu sais, Seigneur, qu'ils ont besoin d'être libérés d'oppression, libérés de visions nocturnes mauvaises, d'esprits qui les attaquent, libérés d'un joug. Seigneur, je te prie que cette libération leur soit donnée maintenant. Qu'ils la saisissent par la foi, Seigneur. Et que s'il y en a parmi eux qui ont besoin de confesser afin d'être libérés, donne-leur le courage de parler à des frères et des sœurs qui peuvent les aider. Non pas les juger, mais les aider. Car tu veux que les tiens soient libres. Seigneur, tu entends ma prière et tu l'exauces. Je te bénis, Seigneur. Reprenons nos places. Tous ceux qui désirent, après la réunion ou pendant la semaine, avoir un entretien avec quelques-uns de ceux qui sont dans le ministère pour avoir du conseil, un secours, une aide, nous sommes là à votre disposition. Vous avez besoin de confesser quelque chose de caché, quelque chose que vous avez fait, quelque chose qui vous lie à votre famille d'une façon ou d'une autre, faites-le! Le Seigneur veut un peuple libre, libre et délivré. Seigneur, sanctifie l'offrande que nous voulons te donner maintenant. Sanctifie-la. Prends-la, Seigneur. Prends-la. Et que ce soit l'expression de notre reconnaissance et de notre amour pour toi. Merci.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.